C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Dans un rapport, le Comité des droits de l'homme de l'ONU pointe du doigt la situation des personnes LGBTQIA+ au Canada. Alors que le pays a longtemps été perçu comme un modèle de protection, ce document souligne des reculs inquiétants et un climat social de plus en plus hostile. Magali Boudon, tu es directrice générale du Conseil québécois LGBT. Merci d'être avec nous pour en parler. Bienvenue à l'émission, Magali.
Salut Denis Martin, merci pour l'invitation.
Alors, le Conseil québécois LGBT dit que l'ONU a entendu son cri du cœur. Pourquoi c'était nécessaire là, de porter les préoccupations du Conseil québécois LGBT et aussi de la Clinique internationale de la défense des droits de l'UQAM jusqu'aux Nations unies pour que la situation canadienne soit enfin prise au sérieux?
Mais c'était pour nous une reconnaissance en fait de ce que les organismes disent depuis des années, puis c'est désormais confirmé par l'ONU, comme tu l'as bien dit. C'est pour nous, il y a eu des dizaines de rapports de recherche, des témoignages innombrables, des organisations. Donc on n'est pas les seuls à avoir fait ces cris du cœur, et on n'a pas l'impression que les choses bougent pour autant. Bien au contraire. Alors on espère que ce rapport pourra convaincre nos décideurs de l'importance d'agir.
Donc on note que la tendance positive du Canada en matière de droits se renverse. C'est quoi les phénomènes précis documentés dans votre mémoire qui ont particulièrement été retenus par le comité?
Ce comité a retenu en fait un recul particulièrement au niveau des provinces. En fait, on a vu au Québec, en Alberta, en Saskatchewan, différentes directives, règlements ou lois se mettre en place dans les dernières années et qui venaient en fait soit limiter, soit complètement créer un recul des droits ou alors ne pas en fait favoriser la sensibilisation, la prévention envers les personnes LGBTQ+.
Le comité souligne aussi une prévalence alarmante du harcèlement, de l'exclusion sociale. Au-delà de ce constat, l'ONU appelle en fait à des campagnes d'information et des programmes éducatifs dans les écoles. Alors, quelle forme concrète là, ces mesures-là devraient prendre au Québec et au Canada pour contrer efficacement les stéréotypes?
Mais en fait, il y a deux avenues. La première avenue, elle est que les différents ministères de l'Éducation pourraient mettre en application en fait les cours, ce qu'on appelle les cours à la sexualité, là, de façon un peu basique, mais qui amène justement dès le plus jeune âge, hein, parce qu'il faut intervenir quand les enfants ont, en général entre 8 puis 12 ans, de pouvoir tout de suite sensibiliser, expliquer et par le fait même avoir des conséquences sur leur intolérance par la suite. Après ça, il y a évidemment le financement auprès des organismes communautaires qui font déjà tout ce travail de prévention dans les écoles, mais ce qu'on voit aujourd'hui...
Ça va pas fort, ouais.
C'est, non seulement ça va pas fort, mais on est en plus dans des contextes tellement de violence dans les écoles et d'intolérance que même les intervenants des organismes ne veulent plus y aller en ce moment. Là.
Wow. On va parler de l'enjeu des enfants intersexes. C'est important tout ça parce que c'est un point spécifique du rapport qui concerne l'absence d'interdiction des chirurgies non consenties sur les enfants intersexes dans le code criminel. Pourquoi cette réforme législative recommandée par l'ONU est-elle une priorité absolue là, dans le respect de l'intégrité physique au Canada?
Mais c'est une priorité absolue parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de flou toujours qui fait que il y a encore et toujours des chirurgies qui sont non nécessaires en fait. Ce qu'on appellerait des chirurgies de normalisation qui sont faites sur des enfants de moins de 2 ans. Mais quand on observe les chiffres, je pense que c'était, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au Québec, dans les opérations qui ont été faites, il a été prouvé qu'elles étaient sans nécessité médicale. Mmh. Donc, il y a ce danger là pour l'enfant en tant que tel. C'était vraiment une décision des parents, des médecins, en fait, de choisir au niveau de la chirurgie pour l'enfant, finalement.
Ouais, pour bien comprendre, hein, les enfants intersexes viennent au monde, puis c'est peut-être pas très clair quand on regarde c'est quoi le genre assigné à la naissance et on décide pour eux ou pour elles.
Pour eux, exactement. Des préjudices irréparables, en fait,
tout à fait.
Pour ce que ça va devenir.
Tout à fait.
Il faut avancer là-dessus. Ça fait des années que ça n'avance pas. et qui reste ce flou-là qui malheureusement donc laisse la part belle à des décisions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'enfant.
Alors maintenant, je terminerai là-dessus. Au Conseil, vous demandez au gouvernement, vous vous demandez si le gouvernement canadien fera preuve d'autant d'écoute que l'ONU. Ce serait quoi là, les premières étapes attendues des décideurs suite à la publication de ces observations?
Nous, ce qu'on veut au Canada, c'est un cadre légal plus clair contre la haine, l'intimidation et la cyberintimidation. Donc, de cesser ce flou-là qui perdure encore, que ce soit, comme on l'a dit, au niveau des opérations, mais aussi au niveau des thérapies de conversion, par exemple. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu une grosse campagne au Canada. On se réduit là, d'une campagne contre la haine pour qu'on se sente à nouveau protégé par nos décideurs politiques.
Magali Boudon, c'était clair tout ça. Merci beaucoup. Vous êtes directrice générale du Conseil québécois LGBT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Martin. Bonne journée.
Merci.